Il est 8h.
Ici, c'est chez moi, c'est de là que je viens. Et quand ils me demandent si j'ai peur, je n'ai pas peur.
Il n'a pas peur de Poutine, mais Alexeï Navalny a été arrêté à peine arrivé en Russie. Son avion dérouté vers un autre aéroport. Le sort du principal opposant au Kremlin indigne les États-Unis et toute l'Europe. À la une également, la semaine de Joe Biden. Il sera investi mercredi dans une capitale, Washington, verrouillée par des milliers de militaires en armes. Reportage sur place et le portrait de celui qui s'apprête à diriger la première puissance mondiale, avec Sonia Dridi qui a rencontré tout son entourage. Et puis 57 nouvelles étoiles au guide Michelin. Les lauréats seront dévoilés à la mi-journée. Mais attendez, on parle bien de restaurants, ces lieux fermés depuis presque 6 mois en un an. Eh bien oui, le patron du guide nous dira pourquoi et comment l'édition 2021 est tout de même publiée.
Juste après ce journal, c'est donc Jack Lang, le président de l'Institut du Monde Arabe, qui répondra en direct aux questions de Sonia Mabrouk. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il avait demandé à ses partisans de venir l'accueillir à l'aéroport. Ce sont les policiers qui lui ont finalement tenu compagnie. Alexeï Navalny, dont la dernière escale sur le sol russe, le 20 août, était un arrêt d'urgence en Sibérie. Soigné 48 heures, il sera ensuite évacué dans le coma vers Berlin, où plusieurs laboratoires diagnostiqueront un empoisonnement au Novichok, un neurotoxique inventé à l'époque par l'Union soviétique.
Alexeï Navalny, c'est le principal opposant à Vladimir Poutine, le seul qui émerge vraiment dans son pays et au niveau international. Il a choisi hier de rentrer à Moscou, sûr de lui. Voilà ce qu'il déclarait quelques instants avant d'être arrêté.
Ici, c'est chez moi, c'est de là que je viens. Et quand ils me demandent si j'ai peur, je n'ai pas peur. Je vais maintenant me rendre au contrôle des passeports en toute tranquillité. Je vais sortir et rentrer chez moi parce que je sais que j'ai raison et que les affaires criminelles lancées contre moi sont fabriquées de toutes pièces.
Alors, on lui reproche officiellement d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis en 2014 pour détournement de fonds. Cette arrestation suscite en tout cas de vives réactions. Il doit être libéré immédiatement, déclare le futur conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan.
En direct de Bruxelles, bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
On observe depuis hier soir en Europe une pluie de réactions scandalisées.
Oui, au nom des 27, le président du Conseil européen juge l'arrestation inacceptable. Charles Michel réclame la libération immédiate d'Alexeï Navalny. Le chef de la diplomatie européenne demande le respect des droits de l'opposant. Josep Borrell dénonce la politisation du système judiciaire russe. Le président du Parlement européen dénonce, lui, une offense à l'Europe qui a aidé à sauver la vie de Navalny. Enfin, le Quai d'Orsay précise de son côté que la France suit le dossier en lien avec ses partenaires européens, avec la plus grande vigilance. Les chefs d'État ont un sommet européen prévu jeudi soir.
Alors Isabelle, au-delà de ces communiqués ou de ces phrases, les dirigeants de l'Europe ont-ils des moyens de pression concrets sur la Russie ?
Des moyens de pression immédiates et efficaces ? Non. Ce qu'ils ont à leur disposition, ce sont des sanctions. D'ailleurs, les trois pays baltes les réclament déjà. Mais elles prennent toujours du temps à être décidées et mises en place. Par exemple, Navalny avait été empoisonné en août. Les sanctions ciblant six responsables russes ont été mises en place à la mi-octobre seulement. Ce sont des interdictions de séjour et le gel de leurs avoirs en Europe. Vu ce qui s'est passé hier, ça n'a pas l'air de beaucoup impressionner Vladimir Poutine.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
En France, c'est enfin le top départ maintes fois promis de l'accélération sur le vaccin contre le Covid. Plus de 6 millions de personnes peuvent théoriquement se faire vacciner à partir d'aujourd'hui dans les 833 centres dédiés. Il s'agit des plus de 75 ans et des personnes atteintes de pathologies à haut risque.
Aux États-Unis, on est à deux jours de l'investiture de Joe Biden, événement qui rassemble habituellement des centaines de milliers d'Américains à Washington.
Mais cette fois, entre crise sanitaire et risque sécuritaire, bien sûr, la capitale fédérale a des aires de camps retranchés, comme nous le raconte l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon.
Sur Pennsylvania Avenue, on n'entend plus que le bip inutile des feux rouges. Au bout de l'artère déserte, le Capitole est désormais enfermé dans une cage d'acier protégée par des militaires et des blindés. Checkpoint, garde nationale, police, secret service, tout le centre-ville est bunkérisé. La seule fois qu'on a vu ça, c'était après le 11 septembre, raconte Hélène qui promène son chien entre deux rues fermées. Mais là, ce qui est différent, dit-elle, c'est qu'on doit se protéger de nos propres concitoyens. Cette ambiance zone de guerre désole Joy qui manifeste toute seule avec son panneau anti-Trump. Ça me brise le cœur, dit-elle. Regardez ce monde que Trump a créé. Pam, elle aussi est triste, mais parce qu'on va lui enlever son président. Trump une bonne personne, dit-elle, persuadée qu'on lui a volé l'élection. Sinon, pourquoi y a-t-il 25 000 soldats ici? Seul Lewis semble joyeux avec son t-shirt « Fuck Trump ». Une fois qu'il sera parti, dit-il, tout ça, les barricades, ça va disparaître. Alors oui, ce vétéran de l'armée est venu célébrer et dire à Donald Trump
«
Au revoir, adieu et ne reviens jamais ». Washington, Xavier Yvon, Europe 1.
Et pour Joe Biden, c'est bien sûr le rêve d'une vie qui se réalise après presque 50 ans passés en politique. Mais on connaît finalement assez peu celui qui était le vice-président de Barack Obama.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
Vous êtes également en ligne de Washington pour Europe 1. Joe Biden aime avant tout se présenter comme un homme ordinaire, proche du peuple.
Oui, middle class Joe, Joe classe moyenne, c'est le surnom qu'il aime se donner. Joe Biden a grandi à Scranton, dans l'industrielle Pennsylvanie, avant de déménager dans le Delaware, où son père vendait des voitures. Il a passé un été comme maître nageur à la piscine d'un quartier noir. C'est là qu'il commence à s'intéresser à la question des droits civiques et qu'il rencontre Richard Smith, l'un de ses plus anciens amis.
He's a people person. C'est quelqu'un qui aime les gens. Si vous lui donnez votre nom une fois, il s'en rappellera. Dans un an, dans trois ans, vous n'avez pas l'impression que c'est un grand homme politique. Il est normal, comme nous.
Biden a placé l'empathie au cœur de sa campagne et parle souvent de ses tragédies personnelles. À 30 ans, à peine élu sénateur, il perd sa première femme Nelia et leur petite fille de 13 mois dans un accident de voiture. Ses deux fils survivent. Il pense au suicide. Il remonte finalement la pente et passera 36 ans au Congrès. Il s'y occupe surtout des dossiers de politique étrangère, mais comme le rappelle son futur secrétaire d'État Anthony Blinken, il négocie aussi beaucoup avec les républicains pour faire adopter un certain nombre de lois, comme celle contre les violences faites aux femmes dans les années 90.
C'est lui qui a créé, à part cet acte, le hotline qui existe pour que les femmes en danger puissent appeler au secours. Chose dont il est probablement le plus fier.
Depuis ses années au Sénat, puis à la Maison-Blanche comme vice-président de Barack Obama, Biden a pour première conseillère sa sœur Valérie et sa deuxième femme Jill Biden. Ce vieux routier de la politique devrait d'ailleurs avoir le gouvernement le plus féminin de l'histoire des États-Unis, mais aussi le plus diversifié. Pour l'élu afro-américain Jim Clyburn, qui fait partie du comité d'investiture, Joe Biden, longtemps considéré comme un candidat par défaut, est l'homme de la situation.
C'est l'homme qu'il faut à ce moment là de notre histoire.
Alors que le pays est plus divisé que jamais, sa prestation de serment aura pour thème l'unité. Joe Biden veut se démarquer de son prédécesseur et se pose en rassembleur.
Merci Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Et je rappelle le titre du livre que vous avez écrit, cette enquête avec l'entourage de Joe Biden. Ça s'appelle Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, et c'est aux éditions du Rocher.
On en parlait tout à l'heure dans le journal de 7h. Le Conseil français du culte musulman a annoncé hier soir avoir approuvé une charte des principes de l'islam de France.
Oui, le texte affirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, dont la laïcité, l'égalité homme-femme. Il rejette l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Cette annonce intervient alors qu'une commission spéciale de l'Assemblée nationale commence aujourd'hui l'examen du texte du projet de loi contre le séparatisme.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Même en temps de Covid, il fait et défait la renommée des restaurants. Le guide Michelin dévoilé aujourd'hui.
Et son patron est en direct avec nous.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Tout est chamboulé depuis un an, mais il y a quelques repères qui demeurent. En voilà un, plutôt inattendu. Ils consacrent chaque année des restaurants pour l'excellence de leur mets et de leur service. Tout à l'heure, à 13h, le guide Michelin 2021 va bien être publié. La preuve, son directeur international est en direct sur Europe 1.
Bonjour Gwendal Poulounek.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Un guide Michelin en 2021, alors que les restaurants ont été fermés 3 mois au printemps, puis à nouveau depuis fin octobre. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous êtes assis à table et que vous avez goûté des plats ?
Oui, comme tous les ans, et je dois vous dire que nos inspectrices et inspecteurs ont réalisé cette année le même nombre de repas que les années précédentes. Mais vous savez, ça fait des mois que les restaurants se battent sans relâche au rythme des fermetures et des ouvertures. Et pour le guide Michelin, plus que jamais, il nous tenait particulièrement à cœur d'honorer ce rendez-vous que nous avons tous les ans avec les chefs, leurs équipes et bien entendu tous les amoureux de bonne table.
Mais comment vous avez pu goûter alors les plats ?
Nous avons pris exemple sur les chefs. Nous nous sommes adaptés à la situation et nous avons fait preuve, et nos équipes ont fait preuve d'un investissement exceptionnel pour être sur le terrain chaque jour d'ouverture des restaurants en décalant leurs congés sur les périodes des confinements et puis aussi en bénéficiant du renfort de leurs collègues, des inspectrices et inspecteurs internationaux pour réaliser cette année autant de repas que les années précédentes ne pas modifier nos critères, assurer l'application de notre méthode, parce que c'est ce qui fait la force des recommandations du Guide Michelin. Et vous savez, la reprise dans la restauration, c'est les clients qui vont la faire. Il faut leur donner envie d'y retourner. Les chefs n'ont pas démérité, voire même ils se sont surpassés cette année. Il faut continuer à entretenir cette envie, parce que la pérennité des restaurants dépendra de l'envie des clients d'y retourner.
Mais pardonnez-moi cette question, est-ce qu'on a vraiment intérêt à acheter ce guide Michelin 2021 alors que pour l'instant les restaurants sont fermés et ça semble malheureusement parti pour durer ?
Alors vous savez, malgré une année noire, il n'était pas question pour nous de faire un millésime blanc, sans mouvement ni promotion, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la scène culinaire française cette année. Beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'ouvertures, des projets qui ont aussi abouti dans l'année, même s'ils avaient été lancés les années précédentes, et beaucoup de talents qui ont émergé. Nous avons une très belle promotion à partager, plus de 57 nouvelles étoiles, avec donc une vraie diversité sur l'ensemble du territoire français. Donc la scène gastronomique française est intéressante et peut-être même plus intéressante que jamais, parce que certains mouvements s'accélèrent au travers de la crise que nous venons de traverser. Et je veux par exemple parler de la prise en compte du durable, du responsable dans la gastronomie. Pendant les périodes de confinement, vous savez, les chefs, et pour la première fois peut-être depuis longtemps, ont du temps de réflexion et du temps pour passer à l'action. Donc en soignant davantage leur approvisionnement
auprès des producteurs,
voilà, en étant vraiment attentifs à toute cette démarche auprès de l'environnement local et en travaillant aussi sur la réduction des déchets gastronomiques tout en assurant l'excellence de leur table.
Merci Gwendal Poulenec, directeur international du Guide Michelin, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct. Les révélations, les nouvelles étoiles décernées, c'est tout à l'heure à 13h.
Et on ne va rien dire pour l'instant, mais notre reporter Pierre Arbulot était dans la cuisine d'un restaurant quelque part en France quand le téléphone a sonné.
Je souhaitais vous passer cet appel pour vous faire savoir que vous allez recevoir une première étoile dans le guide Michelin 2021 à paraître lundi.
Ah voilà, vous entendez ce sursaut, hein. Vous saurez de qui il s'agit tout à l'heure en écoutant le journal de 13h d'Europe 1.
Ça c'est du teasing. Merci beaucoup François Giffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité ce matin, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre. Je l'interrogerai sur les États-Unis, lui qui a qualifié Donald Trump de facho. Et puis en France, l'onde de choc de l'affaire Olivier Duhamel et les accusations d'inceste sur fond d'omerta et d'entre-soi. A tout de suite.
A tout de suite, il est 8h14.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe.
Bienvenue et bonjour Jack Lang.
Bonjour.
C'est une semaine très importante pour les États-Unis et bien sûr le reste du monde avec l'investiture de Joe Biden et la sortie de Donald Trump, ce dernier, toujours président, que vous avez qualifié sur les réseaux sociaux, je cite, de saloperie humaine et de facho. Alors un ancien ministre comme vous, et qui plus est a été ministre de la Culture, devrait-il employer de tels mots ?
Quand la révolte est en vous, oui, je réponds oui et disons-le, je persiste et je signe. J'allais dire, enfin, ce roi Ubu part. Enfin, ce démon narcissique et dangereux s'envole. C'est une affreuse personne et il a ajouté à tout ce qu'il a entrepris et dit depuis 4 ans, des exécutions en dernière minute, à la queue-leu-leu, de personnes qui, normalement, dans le système fédéral américain, ne sont jamais exécutées. Et tout cela pour plaire à ses partisans.
Mais les mots ont un sens. Trump facho, donc le trumpisme serait pour vous, Jack Lang, une idéologie globalisante, totalisante ?
Mais écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé lorsqu'il a appelé ses partisans à s'emparer du Capitole. C'était une forme de coup d'État. Donc c'est ça ce qu'on peut appeler le facho, celui qui ne respecte pas les institutions et qui est prêt à... Et disons que ce monsieur qui, en dernière minute, exécute à tour de bras des personnes qui avaient été condamnées il y a 30 ans ou 40 ans, est lui-même un homme qui commet des crimes fédéraux. Et appelé à envahir le Capitole de la part d'un président américain, c'est une atteinte à la Constitution.
Alors là, il dit aussi clairement, en tous les cas, Trump facho selon vous, mais alors, Jack Lang, la censure de Donald Trump à l'inverse, c'est synonyme de vitalité démocratique pour vous ?
Non, mais je termine. En même temps, cet homme qui exécute à tour de bras amnistie à tour de bras tous ses copains voleurs. Non mais, il faut quand même qu'on regarde les choses en face et appeler les choses par leur nom. Et j'espère qu'il va passer aux oubliettes de l'histoire.
Mais jusqu'où faut-il aller pour le bannissement de Donald Trump, la censure des GAFA? Alors, vous trouvez que c'est un signe de démocratie? C'est lié
quand même. Avant de parler des choses négatives, que c'est une semaine heureuse avec l'arrivée d'une excellente équipe à la tête des États-Unis, l'équipe de Joe Biden. Alors Twitter, ça c'est vous poser un problème alors qui est d'une autre nature, qui concerne la démocratie. Et ça ne concerne pas que Trump. La démocratie, c'est un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Oui. Et comme on dit dans le langage anglo-saxon, de check and balance.
Mais soyez aussi direct que vous ne l'avez été pour dénoncer Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec la censure de Donald Trump sur les réseaux sociaux?
Non, je ne suis pas d'accord. Pas avec le pouvoir absolu de Twitter et d'autres médias, c'est comme des sortes de léviathans qui sont sans légitimité, autre que l'argent qu'ils possèdent, sans désignation par aucun suffrage, sans règles. Donc c'est quelque chose de très très grave pour nos démocraties que règne au-dessus de nos têtes ces Twitter et autres, et qui peuvent décider un jour de donner la parole à qui ils veulent, le lendemain de couper le sifflet à d'autres. Et en effet, sur ce plan-là, on ne peut que s'étonner que Twitter, qui ait donné à Trump une liberté totale de mentir, de tromper brutalement, interrompe son droit à l'expression.
Alors, à vous écouter ce matin, Jack Lang, vous gardez intacte votre capacité à vous indigner. Que pensez-vous alors, et je vous ramène en France, de l'affaire Olivier Duhamel et des accusations d'inceste sur son beau-fils, le fils de Bernard Kouchner, des accusations qui éclaboussent plus largement une certaine gauche post-68arde, un certain milieu intellectuel accusé de savoir. Là, je n'ai pas lu d'indignation de votre part.
Dans un mot, pour terminer sur le point précédent qui est un point capital, moi je souhaite qu'en France même, on adopte des règles en matière de réseau et en matière de Twitter et consorts pour d'abord abolir l'ALIMA. C'est inadmissible que des gens puissent dénoncer, conspuer, calomnier sans signer leur délation. Je souhaite aussi qu'on crée une sorte de conseil du pluralisme. Bien. Qui veillerait à l'honnêteté de l'information.
Et ma question, parce que justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag #MeTooInceste, et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences.
Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon
sentiment.
C'est la
géométrie variable.
Mais vous m'interrogez, vous êtes une grande radio. Alors je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est par ailleurs un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy.
Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles? Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue?
Je ne fréquente pas ces milieux, si vous voulez. Je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez.
C'est quel milieu, disons-le? C'est une gauche caviar parisienne? C'est un entre-soi culturel? C'est une certaine...
Madame, je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Institut du Monde Arabe, je suis un universitaire, et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bon, donc, par conséquent, encore une fois, j'ai découvert, comme vous, en lisant ici ou là, ce qui se passait ici et là.
Sauf que vous avez signé une tribune, Monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes.
C'est une connerie. Connerie.
Vous ne l'avez jamais regretté, c'est seulement
oui,
aujourd'hui.
Oui, je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68.
Oui.
Et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive.
Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants?
Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable.
Bah, peut-être on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Voilà ce qui était écrit. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. Autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça.
Mais écoutez, nous, si on ouvre le débat à l'époque, nous n'étions pas seuls à dire cela. Il y avait même des personnes éminentes, je pense à Catherine Dolto, même si elle était prudente, à professer ce genre d'appréciation. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui. En tout cas, quand vous...
Mais pourquoi vous l'avez signé à l'époque? Vous dites que c'est une connerie aujourd'hui, mais quand même, quand on lit cela, Jack Lang, ça prend aux tripes, avec tous les témoignages que l'on lit. Après mai 68, une partie de l'intelligentsia libertaire, une partie aussi de la gauche, a défendu au nom d'une révolution sexuelle l'indicible.
En tout cas, c'est l'indicible. En effet, vous me demandez mon sentiment. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes. J'ai écrit des livres, Demain les femmes. J'ai réclamé que le viol soit considéré comme un crime. Donc, je n'ai pas à me justifier à l'instant.
Mais
si
non, mais ce n'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi on vous retrouve...
Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui.
Monsieur Lang,
inacceptable et intolérable.
Mais pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent?
Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre c'est l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant, et en effet, et il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant vous? Je dois
simplement
rien dire de plus.
Comprendre.
On a fait une connerie, et basta, voilà. Mais depuis lors, j'ai combattu, comme tant d'autres, contre ce genre de bêtises.
C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire semblant, quand on fréquente à Jeffrey Epstein, de dire sur lui une personne charmante, courtoise, très agréable, entourée de jolies femmes. Tout ça n'a plus raison d'être.
Écoutez, ça, alors vous faites un mélange, un amalgame qui n'a pas de sens. Quelqu'un peut être un instant un homme charmant et on découvre, 3 ans après, qu'il est un salaud. Voilà. Ça vous est arrivé sûrement d'être aimable avec une personne charmante et de découvrir 3 ans après que c'est une ordure. Ça, c'est la vie. Et on ne va pas, tout à coup, pénaliser ceux qui ont été, dans le passé, aimables avec des gens qui se sont révélés plus tard comme des ordures. Donc, aujourd'hui, il y a un point sur lequel je reviens. Votre histoire que l'histoire de Duhamel entache la gauche. C'est inadmissible de dire ça. Moi, je n'ai pas de rapport avec cette famille.
Qui le dit? C'est la fille de Bernard Kouchner qui dit un certain milieu.
Aujourd'hui, l'omerta, si elle existe, elle existe d'ailleurs partout en France.
Mais elle bien existe, sûr, donc, elle n'est donc, pas réservée à un certain milieu.
Mais elle ne concerne pas la gauche, elle ne concerne pas la droite, elle concerne toutes les familles, elle concerne tous les milieux, elle c'est dans des villages et dans des villes, et c'est une chose absolument abominable et monstrueuse. Et d'ailleurs, Christine Angot, en son temps, avait écrit un livre admirable sur l'inceste commis par son père. Et donc, je crois qu'il faut prendre des mesures, en effet, pour tenter, on en parle intelligemment aujourd'hui, pour tenter de mettre fin à cette dictature ou à ce que vous appelez cette omerta.
Et Jack Lang, vous savez ce qu'on dit, la vérité, cette rumeur qui se promène comme un mensonge. Il peut y avoir aussi des rumeurs sur beaucoup de personnes, il y en a également sur vous, comment vous réagissez?
Ah non, les rumeurs me concernant, alors là je me laisse de glace. Si vous voulez, d'abord je ne regarde pas, je n'écoute pas les réseaux sociaux, les choses se répètent à l'envi, je suis... clair en moi, je suis animé par un idéal de vérité, de justice, de voilà, c'est tout. Et les rumeurs, tous les hommes politiques en ont subi. Et François Mitterrand, qui vous le savez, était un homme que j'aimais, que j'aime toujours, que je respecte, a été l'un des hommes les plus haïs de France. Et on a propagé sur lui les pires saloperies. C'est la vie. Bon, il faut, en même temps, quand on est un responsable public, il faut garder un peu de calme et de tranquillité sur ces sujets. Et d'ailleurs, je reviens au point principal.
J'allais conclure.
Il faut en finir. Ça, c'est un point important qui ne me concerne pas, moi, avec l'anonymat. Vous êtes journaliste, vous signez. Votre nom est, Mais tous ces saligots qui propagent des ordures.
Et faire attention à ce qu'on signe. Faire attention toujours à ce qu'on signe, même si c'était il y a 40 ans. Et vous avez raison sur l'anonymat.
D'accord, mais ne faites pas l'amalgame. L'anonymat doit être... Mais il était signé. L'anonymat doit être levé. On ne peut pas, sur les médias, sur les réseaux, propager des insultes à l'égard de personnes de toutes sortes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des gens connus. C'est de toutes sortes, des règlements de compte. Il y a parfois des jeunes qui ont été conduits au suicide, des lycéens, des jeunes parce qu'ils ont été insultés, calomniés.
Bien sûr. Merci, Jack Lang. À travers en tout cas, réseaux. Vous avez répondu aux questions ce matin. Et je crois que c'était l'une des premières fois où vous vous exprimez sur ces sujets-là. Merci d'avoir répondu à cette invitation sur ce sujet et d'autres. Merci encore.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h29 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien avec nous à suivre l'info. Hélène Zélani, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Y aura-t-il une pénurie de doses? Grande question alors que la campagne de vaccination s'élargit à près de 6,5 millions de personnes aujourd'hui, les plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite et tous ceux qui souffrent de pathologies à haut risque. Un vaccin Pfizer dont les effets secondaires sont suivis de très près, ce sont les centres de pharmacovigilance qui s'en chargent, comme celui de Bordeaux où s'est rendu Stéphane Place.
Alors, pas de microscope ou de fiole, pas de blouse blanche ici dans ce centre de pharmacovigilance au CHU de Bordeaux. C'est par mail, par téléphone ou via le portail internet du ministère de la Santé que Justine Perrineau et sa dizaine de collègues reçoivent des observations de professionnels de santé comme de patients sur des effets secondaires apparus après la vaccination contre le Covid.
En ce qui me concerne, je suis docteur en pharmacie. On a aussi des internes en médecine et des internes en pharmacie. Il y a des pharmacologues, des médecins, des pharmaciens au centre. On ne fait pas seulement de l'enregistrement, mais vraiment, on a l'expertise, on va dire, pour arriver à évaluer si un effet est dû à un médicament ou pas.
C'est le professeur Antoine Pariente qui dirige le centre de pharmacovigilance de Bordeaux.
L'essentiel des notifications qui sont rapportées, c'est des réactions vaccinale qu'on voit avec tout type de vaccin. Ça fait mal, j'ai mal à la tête dans les jours qui suivent, de la fièvre un petit peu, sachant que par contre, l'attention particulière qui est portée, c'est bien sûr aux événements allergiques, puisque c'était une des interrogations sur lesquelles il y a déjà eu des premiers éléments de réponse avec les campagnes vaccinales américaines et britanniques, et puis surtout, nouvel effet indésirable qui pourrait être identifié.
Une mission d'analyse pointue que se partagent deux centres de pharmacovigilance, celui de Bordeaux et celui de Marseille. Ils établissent des rapports hebdomadaires.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Après la Martinique et la Guadeloupe, la Réunion impose à son tour un isolement d'une semaine pour toute personne arrivant sur place. À partir d'aujourd'hui, un premier cas du variant sud-africain a été détecté sur l'île. Sur fond de lutte contre l'islamisme radical, les députés commencent à examiner en commission la cinquantaine d'articles du projet de loi contre le séparatisme. Éric Diard, député LR, qui avait rendu un rapport sur la radicalisation dans les services publics, était ce matin l'invité d'Europe 1. Il regrette que la commission n'ait pas retenu certains amendements.
Sur le séparatisme dans les prisons, il n'y a rien. Sur les séparatismes dans les universités, les hôpitaux, et c'est pas moi qui le dis, c'est Patrick Peloux qui dit « je ne reconnais plus mes hôpitaux, je ne reconnais plus mes universités », il n'y a pas une ligne là-dessus. Donc le gouvernement ne souhaite pas aborder ces sujets et vous avez des administrateurs à l'Assemblée nationale qui vous enlèvent automatiquement les amendements.
Le député LR Éric Diard au micro de Sébastien Krebs à 6h40. Hier soir, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a approuvé formellement la charte des principes de l'islam de France. Objectif, affirmer la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, notamment la laïcité. Ses dirigeants sont reçus à la mi-journée par Emmanuel Macron. C'est une première à la Bourse de Paris. Elle sera bientôt dirigée par une femme, Delphine Damarzit, spécialiste des marchés. Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation, est attendue aujourd'hui dans un hôpital des Yvelines pour promouvoir l'opération Pièce jaune. Elle sera accompagnée de Didier Deschamps. Alexei Navalny devrait être libéré immédiatement. C'est ce qu'affirme ce matin le ministre allemand des Affaires étrangères. L'opposant russe a été arrêté hier dès son arrivée à Moscou. Il venait d'Allemagne où il avait été soigné après son empoisonnement. Arrestation condamnée aussi par la France, l'Union européenne ainsi que les États-Unis. Et puis un mot de foot, première défaite pour Lyon depuis 16 matchs en Ligue 1. L'OL s'est incliné à domicile 1-0 face à Metz et perd la tête du classement dominé par le PSG et Lille.
Merci beaucoup Hélène Zélani. À 8h34, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et avec le danger ce matin, le danger c'est le givre qui est porté par les brouillards. Les brouillards sont très nombreux et ils sont tous quasiment givrants. Donc, bon, prudence, inutile de le dire, et vous êtes suffisamment précautionneux au volant pour le faire. Sur la Haute-Normandie, le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, le Berry, la Vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le Mâconnais, la Lorraine et l'Alsace, Ces brouillards céderont la place à de courtes éclaircies car ils vont vraiment tenir au sol, probablement. À Paris, le soleil va l'emporter. Hein. À Lyon, ce sera mes figues mirez, si je puis dire. En Bretagne, Cotentin et sur la Loire Atlantique, c'est la pluie qui arrive. Alors là, c'est un changement de temps qui interviendra demain, surtout sur la moitié nord. On verra, on en parlera. Bretagne, Cotentin, Loire Atlantique, attention, dans la journée, la pluie arrive. Sur le sud-ouest, le Massif central et les vallées alpines, là, le soleil sera quasiment présent. Après, toujours les brouillards qui, eux, sont également là, notamment en région bordelaise. Et ensuite, il fera relativement beau. Et puis très beau assez vite sur le Midi-Pyrénées, le bassin méditerranéen, les Alpes du Sud. Les températures aujourd'hui, entre 5 et 10 degrés, sont à la hausse. 7 à Paris et Lille, 9 à Bordeaux et 12 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35, dans un instant, on prend soin les uns des autres. On va retrouver Fanny Agostini, notre planète. Et d'abord, Jimmy Mohamed, il nous l'a promis. Il nous l'a promis vendredi, il va donner quelques petits conseils pour aider bébé à s'endormir. Dans un instant, sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, juste après le journal de 8h30, juste après la météo de Laurent Cabrol. Vous le savez, c'est Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vendredi, vous nous avez parlé du sommeil des adultes. Et ce matin, nous allons venir en aide aux parents un peu désespérés qui ont des bébés qui ne font pas leur nuit.
Oui, et c'est plus fréquent que ce qu'on croit. C'est 30% des enfants qui ne vont pas faire leur nuit, qui vont avoir des troubles du sommeil. Le problème, c'est qu'un enfant qui ne dort pas, c'est plus de somnolence pour les papas et les mamans. C'est plus de problèmes conjugaux et c'est aussi plus de troubles anxieux qu'on va essayer d'améliorer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui fait ses nuits? Parce qu'on n'a pas tous la même définition. On pense à un enfant qui va dormir 7, 8, 9 heures. Et ben, un bébé qui fait ses nuits, c'est un bébé qui va avoir un sommeil ininterrompu, sans éveil, signalé aux parents entre minuit et 5 heures du matin. Donc déjà, si votre enfant dort entre minuit et 5 heures du matin, c'est une victoire, il fait ses nuits. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la naissance, on a une horloge biologique qui ne marche pas très bien. On n'est pas sensible à l'hormone qui nous permet de nous endormir, la mélatonine. C'est-à-dire que durant le premier mois de vie, il est normal qu'un bébé ne dorme pas et il faut s'attendre à ce que son rythme soit un peu anarchique. En revanche, à partir de 3 mois, un bébé est capable de faire ses nuits. Et si après 6 mois, il ne les fait pas, c'est que nous sommes les responsables et donc il est possible de les entraîner à acquérir cette horloge biologique. Alors, le premier conseil qu'on peut donner, c'est qu'en journée, il faut jouer avec les enfants et puis la nuit, il faut les laisser tranquilles et moins les stimuler. Lorsque vous leur faites la
mais moi, je travaille la nuit et je dors la journée. Donc du coup, je les réveille la nuit, le week-end. Allez, viens, on va jouer.
Il ne faut pas se plaindre ensuite des problèmes. Lorsqu'ils font la sieste, la journée, n'hésitez pas à ne pas les laisser dans l'obscurité totale. Laissez une petite lumière pour que l'horloge biologique comprenne bien qu'on est en journée. Lorsque vous leur donnez le repas le soir, des féculents. Parce que s'ils ne sont pas calés, ils vont se réveiller. Et à l'inverse, pas trop de sucre, ça va leur entraîner des éveils nocturnes car ils vont avoir soif. Et puis, dernière chose, le rituel. Le rituel est très important. Essayez de les coucher toujours à la même heure, toujours dans le même rythme. On change la couche, on met le pyjama, on lit une petite histoire et ce rituel doit être court, sinon on va aggraver l'anxiété de séparation.
Bon, c'est pas de notre faute uniquement si bébé fait passer nuit, si on est un peu responsable.
Si,
Jimmy.
Entièrement. Dans 70% des cas, c'est la faute des parents. C'est lié à un mauvais conditionnement.
Et bonne semaine
du
sommeil. À tous.
Et oui, non, il faut être honnête. Et j'ai été un responsable. Tout ce que je vous dis, je ne l'ai jamais appliqué à moi-même. Et mes enfants n'ont jamais dormi. Mais bon, quand même. Alors, un truc qui est très important. Un bébé a plusieurs cycles de sommeil dans la nuit. Il y a des petits trains du sommeil. Entre chaque cycle, l'enfant va avoir un micro-réveil. Il va se réveiller. Le problème, c'est que si vous l'avez endormi au biberon, au sein, si vous l'avez bercé, si jamais vous avez dormi à côté de lui, eh bien lors de ces micro-réveils entre deux cycles de sommeil, il va essayer de retrouver la phase qui lui a permis de s'endormir. Ça veut dire qu'un bébé qui s'endort au sein va se réveiller de nombreuses fois après minuit. Exactement, et chercher le sein. Même chose pour les bercements. Il faut laisser l'enfant pleurer de temps en temps. Et pour ça, il va falloir appliquer ce qu'on appelle un déconditionnement. On reçoit tout à l'heure, avec Mélanie Gomez, de 15h à 16h, le Cristiano Ronaldo de la médecine de sommeil de l'enfant. C'est le docteur Michel Lecendreux. Et il viendra nous parler justement des problèmes de sommeil de l'enfant. Vous allez voir, c'est passionnant.
Mais j'adore le Cristiano Ronaldo du sommeil de l'enfant. Cela dit, vous savez que c'est Cristiano Ronaldo, c'est un héros pour beaucoup de
Michel
d'adolescents
Sandro, c'est le héros
de jeunes
des
papas
qui ne dorment pas.
Et là, on est sur un autre genre de héros de 15h à 16h. Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy. Et à 8h41, celle qui nous disait vendredi, Jimmy a fait dormir mon bébé, c'est Fanny Agostini. C'est elle qui nous avait inspiré cette chronique ce matin. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, je dirais même plus, docteur Jimmy m'a redonné la joie de vivre. Là, mon bébé est juste à côté de moi et il peut en témoigner.
C'est magnifique.
Il fait ses nuits. Alors, il y a quelques petites résurgences de temps en temps. Je ne dis pas que c'est
Mais dans ce cas-là, vous appelez Jimmy à 3h du matin. Il ne faut pas réveiller les enfants, j'ai compris, mais il faut appeler Jimmy. Je vous donne son numéro. Bon, Fanny, ce matin, vous nous faites part de la prise de décision. Ah, historique.
Ah oui, il est là, oui.
Ah, c'était un vrai. Oui, non, je me demandais si c'était Jean en régie ou si c'était vous, Fanny, pardon. Vous nous faites part de la prise de décision historique de la ville d'Amsterdam qui devient, Fanny, la première ville au monde sans pub pour les énergies fossiles.
Oui, et par énergie fossile, Mathieu comprenait le carburant, mais aussi toutes les formes de pubs incitatives sur les énergies carbonées, comme la promotion des voyages low cost ou des SUV, par exemple. À présent, dans les rues d'Amsterdam, plus aucune pub du genre ne sera placardée. Et ce qui est à souligner vraiment, c'est que cette décision vient du bas. Elle vient des citoyens et d'une demande poussée par un groupement de plus de 50 associations. Elles ont, à force de pugnacité, obtenu gain de cause.
Une grande première qui intervient dans un contexte particulier en France.
Oui, cela fait partie des projets de loi les plus symboliques, mais aussi les plus ambitieuses proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Stopper la pub des produits les plus polluants est une nécessité qui a du mal à être acceptée par les politiques, tant les enjeux financiers sont colossaux et que les entreprises concernées n'ont aucun intérêt à se ruer sur le monde d'après, tout simplement parce qu'il y a encore de l'argent à se faire dans le fossile. Ce fut en tout cas un échec à Sao Paulo en 2007 au Brésil, lorsque tous les panneaux publicitaires avaient été retirés, mais ont été finalement remis quelques temps plus tard. On peut saluer néanmoins Grenoble qui tient bon, mais qui n'en est pas à un niveau de radicalité suffisant qui pourrait changer la donne. C'est vraiment la législation qui pourra, selon la Convention citoyenne pour le climat, structurellement transformer l'économie.
Alors pour autant, le PDG de Total s'est récemment exprimé sur l'arrêt de la publicité dans son secteur. Il le voit plutôt comme une aubaine.
Oui, apparemment, ça ne le gêne pas Patrick Pouyanné. Pour lui, inutile désormais de faire de la publicité pour le pétrole chez Total. Le budget com sera dans très très peu de temps axé sur le mix énergétique et sur le nouveau filon du groupe, le biogaz. En effet, Total vient de faire l'acquisition, c'est tout frais, de Foronche Biogaz, début janvier 2021. Ce qui en fait le premier producteur en France. Une grande campagne de pub qui va prôner la sobriété énergétique sera bientôt lancée pour accompagner les clients à être plus sobres en énergie. Alors c'est vrai qu'on peut être dubitatif sur la volonté du géant pétrolier à vouloir sortir du fossile à brève échéance. Mais on peut néanmoins saluer cette réorientation du contenu de la publicité de la part de Total. Entre les géants pétroliers qui d'eux-mêmes amorcent un changement et la convention citoyenne qui en fait la demande pressante, il ne reste plus que les responsables politiques pour prendre les bonnes décisions pour réguler la publicité et ainsi réorienter nos modes de consommation.
Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. Merci Fanny, il est 8h44. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. Nicolas Canteloup, bien sûr, et Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, on va vous retrouver hein, pour l'actualité, comme d'hab. Allez.
Eh oui, oui, comme d'hab, pas tout à fait comme d'hab. Bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 regarde le monde stagné. Non, pas le monde stagné, sauf les interviews de Sonia Mabrouk. Là on n'est pas sur du lissage brésilien. Avec Sonia, ça décoiffe, je peux vous dire. Ah oui, là, Jacques Lang, une interview comme ça. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu des interviews comme ça qui décoiffent autant. Jacques Lang, il est reparti tout décoiffé. Ça a soufflé fort sur son brushing. Elle l'a pris par le colmao. Et c'est pas facile à saisir, pourtant, un colmao. Bravo, bravo Sonia. On est fiers de Sonia Mabrouk. Bref, je disais, regarde le monde stagner. Car c'est la même actu, il faut bien le dire, Julie, depuis un an. Heureusement qu'il y a des variantes du virus qui sortent. Oui, car l'info du jour, c'est l'apparition inquiétante du variant sud-africain au coronavirus. Après le variant anglais, voilà le variant sud-africain. Il y aurait même un variant brésilien. Ça devient vraiment, faut le dire, ça devient vraiment l'Eurovision du virus, cette épidémie. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on ait aussi un variant français. Et oui, ce serait chouette un variant français, parce qu'avec un peu de chance, il se mettra en grève tout de suite.
Ah. Allez.
Oui, les clichés, je sais. Ah, allez, bah, l'autre info. L'autre info, c'est qu'aujourd'hui, le guide Michelin, on a parlé, parce qu'on a reçu le directeur du guide Michelin. Mm-hmm. Oui, l'autre info, c'est que le guide Michelin décerne ses étoiles aux meilleurs restaurants, alors que tous les restaurants, on le sait, sont fermés. Il devrait donc donner une étoile à McDo pour son McBaguette et deux étoiles à KFC pour son fameux Bucket. Voilà. Ah mais je peux vous dire qu'elle est belle, la gastronomie française cette année. Allez, à vous Julie.
Merci Mathieu. Toute la presse en parlait ce week-end. Il semble ne plus avoir de doute autour de la candidature d'Arnaud Montebourg pour 2022. Bonjour Monsieur Montebourg.
Salut la Julie, salut le Béliard, salut le Jimmy, salut le Cabrol. Là, je dis pas salut au Vandel. Vandel doit finaliser alors qu'il est son brushing, son lissage brésilien dans les gris blancs, gris bleus. Allez, je suis dans les starting blocks. Voilà. Allez, prêt à bondir le nono.
Alors, la presse nous dit que vous avez une ligne politique assez proche de celle de Jean-Pierre Chevènement.
Voilà. Voilà. Chevènement, exactement. C'est ma ligne politique pour être un winner en 2022.
Un winner, vous voulez dire. Un winner.
Oui, oh, winner, écoute, allez. Tu peux faire les Made in France, s'il te plaît, ma Juju.
Alors, rappelez-nous combien de présidentielles il a gagné, Jean-Pierre Chevènement.
Hey. Ah merde. Ah oui, t'es en train de suggérer de façon assez subtile et élégante que je vais encore me bananer, ma Juju.
Ah bah oui, disons que Jean-Pierre Chevènement n'avait jamais assez de voix pour être élu président, mais qu'il en prenait assez à gauche pour faire perdre le Parti Socialiste.
Oui, oui, hein, oui, c'est ce qu'on appelle un ticket perdant-perdant. Et finalement, ça... Ça colle assez bien, ça ressemble assez bien à ma carrière politique, finalement.
Et puis, écoutez cette info-là, on voulait vous en parler. Des milliers de boîtes, oui, de crème glacée positives au Covid en Chine. Alors, comme vous avez lancé votre marque de glace la même ère, on pensait que vous étiez un peu concerné.
Ah, merde. Du coup, il faut que je vérifie si ma mère n'a pas le Covid. Non, déjà, je n'ai pas beaucoup de pognon pour tout dire dans cette histoire. Si en plus, il faut que j'aille faire tester tous mes pots de glace.
Oh là.
On va pas s'en sortir. Ah oui, non, mais financièrement, on va pas s'en sortir. Remarque, attends. Non, parce que je pense à un truc.
Oui.
Si le virus, ma Juju, il tient dans la glace à cause du froid, ça veut dire que le vaccin aussi, logiquement. Je peux...
Et oui,
par la transitivité de la relation. Donc, je peux peut-être lancer des pots de glace, la mémère, goût, fraise vaccin. Tu vois le truc? Ou pistache Pfizer, ou alors chocolat Moderna. Oh putain, je te laisse, je crois que j'ai encore flairé un bon coup. Là.
Bah,
attends,
je te laisse. Bonne chance.
J'ai un super business là.
Oh là, bonne chance, monsieur Montebourg, et à bientôt. Emmanuel Macron a eu Joe Biden au téléphone. Ça se passe bien, on dirait, entre les deux hommes. Joe Biden a mis en avant ses origines soi-disant françaises, même si elles ne sont pas très sûres, hein, on n'est pas très certains. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, mais déjà, Joe Biden se rappelle qu'il s'appelle Joe Biden.
Vous savez, oui, bah...
oui, non, mais écoutez, non, mais vous verrez. Vous passez un certain âge, se rappeler son nom et son prénom, c'est déjà un exploit.
Oh là 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 là, bon. Là... Et puis cette info, l'ancêtre de Joe Biden a connu Lafayette.
Non, Joe Biden. Joe Biden
si.
A connu Lafayette. Non, non, pas, non, mais pas le. Julie,
quoi,
oh, punaise. Pas le directeur des galeries, je précise.
Mais... Oh, merci.
Non, parce que non, il faut dire une chose, il faut dire à vos auditeurs que Julie n'est pas aussi férue d'histoire que mon Stéphane Bern. Ouais. Julie, je sais que vous connaissez très bien Lafayette Gourmet, Lafayette homme-femme, mais à l'origine, c'est le nom d'un officier français américain.
Oh, oui, sait, oui, et on s'en fiche. Allez, hop. Ah. Parlons de la.
Même le du Mabrouk, rentre dedans. Hein.
Alors, parlons de l'actu. On va vers une pénurie de vaccins, il paraît.
Oui, tout à fait. Mais de mémoire, les Français, vous n'étiez pas... je m'adresse
aux Français.
Aux en Français, oui. C'est bien, vous suivez, monsieur Béliard. Vous êtes, les Français, vous êtes contre la vaccination, hein. Docteur Mohamed, vous confirmez que ces bourrins de Français étaient réfractaires.
Oui, mais ils ont changé...
Oui, ils n'osent pas le dire, là. Oui.
Non, mais ils ont changé d'avis, les Français. Ils sont pour, maintenant.
Mais vous êtes extraordinaire.
Quoi?
Non, mais c'est fou. Un peuple de girouettes en plein Mistral. Non, mais c'est fou. Ah, mais je voulais pas de vaccin. Mais maintenant, j'y réfléchis, je veux bien.
Bah, ils sont même d'accord pour le passeport vaccinal, les dents.
Non, mais il faut vraiment vous suivre, hein, vous les Français. Non, mais maintenant, vous voulez être fichés, c'est ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Mais vous avez quel âge, les Français? Mais grandissez un peu, merde. C'est de votre faute, moi. J'en ai pas commandé des vaccins. Du coup, faudra attendre. Moi, j'ai pas commandé, vous n'avez pas de faire vacciner.
Et vous êtes le chef de l'État.
Comment elle me parle, la blonde âme?
Vous devez gérer en bon père de famille. C'est à vous de prévoir. Vous pouvez pas utiliser les hésitations des Français pour excuser c'est vos retards.
Les hésitations, c'est vous qui parlez des hésitations. Merci, Julie, pardonnez-moi, je suis
un peu emporté,
mais je ne suis pas totalement idiot. Je vous le dis à vous parce que vous m'êtes sympathique. C'est un vieux stratagème en communication. Quand vous êtes en tort, vous gueulez le premier. Voilà. Et du coup, ça fait culpabiliser l'autre. Si vous le jouez à donf, Ben, l'autre peut croire qu'il a tort.
On avait compris. On va vous laisser, je crois. Hein. Merci, Monsieur le Président.
Non, ça marche.
Aura-t-on assez de vaccins ? Jean Castex, le Premier ministre, va répondre. Il est avec nous.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à papy et à mamie qui ne voulaient pas de vaccin au début et qui en veulent un maintenant qu'on n'en a plus. Papy et mamie, ils commencent à nous les briser menu. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Madame Julie, et s'il y a pénurie, nous avons déjà pensé à tout. Nous attribuerons les vaccins et resta, et avec un système informatisé, piloté par un professionnel qui a 40 ans de métier. Et il est avec moi. Monsieur, je vous en prie, testons votre matériel pour que Madame Julie comprenne ce qui se passerait.
Eh bien, bonjour. Bonsoir à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Merci, monsieur le Premier ministre, monsieur Jean Castex. Et oui, pour savoir qui aura droit aux dernières doses de vaccin, c'est notre ordinateur qui décidera désormais, un choix totalement au hasard, réalisé sous contrôle d'un huissier, bien sûr, spécialisé en médecine pifométrique. Attention pour la médecine pifométrique, top ordinateur.
Alors ?
Eh bien, oui, formidable. Eh bien, c'est l'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire qui aura les dernières doses de vaccin. Bon courage aux autres. On espère que vous ne mourrez pas entre-temps. À vous, monsieur le Premier ministre, à vous, Jean Castex.
Voilà. Merci, monsieur Foucault. Merci, madame Julie. Écoutez, s'il y a pénurie, tout est déjà pensé, vous le voyez, pour les vaccins.
Eh ben oui.
Bravo, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. 8h55 sur Europe 1. Philippe Vandel est avec nous, il nous a rejoint. C'est l'heure de Culture Média. La matinée continue sur Europe 1 de 9h à 11h.
Évidemment, bonjour Mathieu. Question, et si le championnat de France de foot n'était plus diffusé à la télé ? C'est possible et c'est ce qui risque d'arriver si la Ligue de football professionnelle ne trouve pas rapidement un remplaçant à Téléfoot et à Canal+. Un appel d'offres doit être lancé. Et la semaine qui commence annonce décisive. On en parle avec un des dirigeants de la Ligue. C'est le président du club de Reims, Jean-Pierre Caillot. Au sommaire également,
décisive,
les grandes gueules.
C'est sûr, agité, ça c'est évident. Ça va être rock'n'roll cette semaine. Hein.
Exactement. Ouais. Rock'n'roll également. Les grandes gueules, ça débarque au Moyen-Orient, comme s'il n'y avait pas assez de conflits déjà là-bas. C'est la nouvelle émission d'opinion et de débat, parfois très animée, de la chaîne israélienne I24 News, avec un ancien d'Europe 1 qu'on connaît bien ici, Benjamin Petrovert. Et puis, est-ce que vous connaissez la performeuse serbe totalement déjantée, Marina Abramović? Elle est l'héroïne. Elle est complètement dingue. Elle a par exemple laissé son corps s'utiliser comme un objet pendant 6 heures en public. Elle a fasciné le journaliste Eric Fotorino et elle est l'objet de son prochain roman chez Gallimard. Ça s'appelle Marina A.
Mais vous pouvez en dire plus ou vous en direz plus tout à l'heure ?
Comment ? Je vais en dire plus tout à l'heure, mais si voilà. Je vous raconte, je peux le faire maintenant. Comme vous voulez, non plus, il y a l'horloge qui tourne.
Non mais ça m'a intrigué, pardonnez-moi, ça m'a intrigué cette histoire. Je vais écouter Culture Média. Non, mais je vais faire comme tous les auditeurs, pas de passe-droit.
Écoutez Culture Média.
De 9h à 11h avec Philippe Vandel, la matinée qui continue. Non, mais je voudrais quand même pas déflorer.
Ah, c'est vous le patron, hein.
Mais ça a l'air d'être un bon élément de son émission, je vous dis si on l'a avant 9h, c'est pas mal. Ouais. Ça sera dans ma matinée, ce sera chez Philippe Vandel. Culture Média juste après les infos avec Sophie et Chen tout à l'heure. Merci Philippe. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon début de semaine. Moi je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.